Dýchejte k Betlému, místu svatému, dítěti nebeskému, pánu věčnému.
Budem se mu klaněti, zpěvy slavně chváliti, my radostní vítati, pána věčného, syna božího.
Joyeux Noël à tous nos auditeurs. Vous écoutez le programme spécial de la rédaction française de Radio Prague. Sa première partie sera consacrée, comme de coutume, à l'actualité culturelle. Anna Kubeshta et moi, nous vous parlerons de deux expositions pragoises, celle de pendules anciennes et de peintures et illustrations représentant des personnages de contes de fées. Et dans l'univers féerique, nous allons y rester. Dans la seconde partie de l'émission, vous entendrez une histoire de Noël signée Yarka Gregorova. Elle s'intitule « Kvietushka, les animaux ». Et maintenant, je vous invite à pousser la porte du Musée des Arts et Métiers de Prague, rue du 17 novembre, pour retrouver le fameux tic-tac du coucou de nos grands-mères, et plus encore.
Já jsem si koupil asi v 70. roce takový jednoduchý hodiny oválný.
En 1975, je crois, j'ai acheté une première pendule ancienne, assez rudimentaire, ovale à encadrement fraisé et une peinture sur verre. Je l'ai installée chez moi et ça m'a beaucoup plu. Un peu plus tard, je suis tombé sur des pendules au mécanisme en bois, ce qui aujourd'hui est un fait rare. Le fait que ces pendules fonctionnent encore m'a impressionné. En plus, elles sont très jolies à voir. Voilà pourquoi j'ai commencé à les collectionner systématiquement.
To mě jako zaujalo a kvůli tomu jsem začal vlastně sbírat potom systematicky. Jako.
Dit Miloš Klikar, sa collection de pendules compte aujourd'hui une centaine d'exemplaires, dont la majorité est exposée jusqu'au 8 janvier au Musée des Arts et Métiers de Prague. Il s'agit d'un type de coucou bien précis, des Schwarzwaldke, comme on les appelle en tchèque, donc des pendules de Schwarzwald, ou si vous voulez, de la Forêt Noire, une région située au sud-est de l'Allemagne. Les débuts de la fabrication locale des pendules, réputées dès lors dans le monde entier, remontent au XVIIe siècle. Ces premiers coucous ont été, paraît-il, fabriqués par des gens de montagne pauvres. L'été, ils travaillaient chez des fermiers et l'hiver, pour se faire un peu d'argent, ils s'adonnaient à la fabrication des pendules. Certaines sources historiques évoquent aussi des horlogers menacés par la fabrication industrielle des montres qui se sont alors réorientés vers les pendules artisanales sculptées. Ce sont donc leurs créations, tout en bois, richement décorées par de petites sculptures et du verre peint, qui seront planétairement connues en tant que pendules de la Forêt Noire. Évidemment, le bois y était abondant et l'industrie de verre florissante. Destinés à une clientèle riche, principalement aristocratique et religieuse, les paysans ont déterminé l'heure à partir du soleil ou de la sonnerie des cloches, les pendules de l'époque sont devenues de véritables œuvres d'art, enchantant aussi bien la vue que l'ouïe. Rien que dans la collection de Miloš Klikar, on trouve des pendules décorées par des oiseaux qui chantent, par des portraits de gens dont les yeux clignotent au rythme du balancier. On y voit des animaux de forêt, des scènes de chasse et de danse, des sculptures de soldats, de cordonniers ou de prêtres, toutes bien sûr en mouvement. Certains chefs-d'œuvre ressemblant plutôt à de véritables horloges qu'aux pendules du salon indiquent en plus de l'heure le jour de la semaine, le mois, la position des planètes et les signes du zodiaque. Les Schwarzwald qui ont été fabriqués dès la fin du XIXe siècle aussi en Bohême, notamment à Broumov et à Chomutov. À partir du XVIIIe siècle, elles ont été exportées dans tous les pays d'Europe centrale, ainsi qu'en Angleterre et en France, qui avaient quant à elles aussi sa particularité, Miloš Klikar.
La Forêt Noire et la France, ces deux régions ont été étroitement liées l'une à l'autre, surtout au niveau du commerce. Il n'y avait presque pas de frontières entre elles. La spécialité française, c'était les horloges comtoises en fer. Les horlogers allemands se sont tout de suite inspirés et ont emprunté des comtoises, des plaques en métal et vice-versa.
« Les pendules anciennes de la collection privée de Miloš Klikar sont exposées au Musée des Arts et Métiers de Prague jusqu'au 8 janvier prochain. À noter que pour le mois de janvier, le musée prépare une exposition susceptible d'attirer les foules. On y montrera les bijoux de Maria Callas.
Culture sans frontières.
Když pana Maria po světě chodila, neměla místečka, neměla místečka, kde by porodila. Neměla místečka, neměla místečka, kde by porodila. Přišla ona, přišla, když noclech hledala z cesty na tu stranu.
Après avoir quitté la forêt noire, qui aurait d'ailleurs inspiré les frères Grimm, nous ne sommes vraiment pas loin de l'univers des contes de l'enfance. Qui se cache dans les bois et forêts de Bohême? Qui hante les abords des marais? Qui se dissimule dans les sombres recoins de notre imagination, de notre inconscient? Une exposition pragoise propose une série de tableaux et illustrations représentant des êtres sortis tout droit des contes de fées. Anna Kubeshta et son invité vous en diront plus sur ces créatures fantastiques.
À quelques pas de la place de la vieille ville, le musée tchèque des arts plastiques est pour près de 3 mois peuplé d'étranges personnages, nains, dragons, fées, diablotins, trolls et bestioles de tout poil. Petr Štěpán a organisé cette exposition, il nous détaille le point de départ.
Základem bylo žánr pohádkových motivů, pohádkových bytostí 19. století.
Nous sommes partis de l'idée de base des contes de fées et des êtres qui s'y manifestent au 19e siècle. Époque à laquelle ces êtres n'illustraient pas à proprement parler les contes de fées, mais en étaient plutôt les symboles. Ils apparaissent plutôt comme une perception, une expérience de l'artiste par rapport au conte en question, comme tiré directement de son âme d'enfant. L'exposition concerne le tournant des 19e-20e siècles, où ces êtres de contes de fées sont vraiment caractéristiques de la période. Par exemple, dans d'autres parties du monde, on retrouve la même chose avec des thèmes mythologiques. Et on a ensuite la confrontation de cette période avec le tournant des 20e à 21e siècles, notre époque, où étonnamment les thèmes se répètent, ou en tout cas sont similaires.
Pour Petr Štěpán, il n'est donc guère étonnant que des artistes contemporains puisent leur inspiration dans l'univers des contes et des monstres, plus ou moins grinçants, plus ou moins grimaçants, pas nécessairement méchants et cauchemardesques d'ailleurs, mais inquiétants à coup sûr. Il rappelle la dinomanie, par exemple, qui trouve son illustration dans des films comme Jurassic Park, ou bien, autre exemple, l'engouement pour la culture celtique, où il décèle les mêmes aspects que dans le naturalisme ou le courant décadent, le primitivisme, le darwinisme et tous ces courants en ismes qui fleurirent au XIXe siècle. Autant de mouvements de pensée, d'ailleurs, qui souvent ont pu être dévoyés au cours du XXe siècle. C'est dans une période de crise de la raison, des idéaux, qu'apparaissent tous ces courants et que se développe cet engouement pour le conte, comme si la société en mal de repère cherchait du sens dans un passé mythique, rêvé ou réel. De grands illustrateurs et peintres tchèques, Vojtěch Preissig, Hanuš Švajger, ou bien encore le sculpteur Ladislav Šalaun, ont représenté ces personnages fantastiques. Petr Štěpán a expliqué au micro de Radio Prague où ces artistes de l'ancienne génération allaient chercher leur sujet.
Myslím, že ty umělci tam čerpali ani ne tak z pohádky, říkám, nejsou to ilustrace.
Je pense que ces artistes n'allaient pas puiser uniquement dans les contes. Comme je l'ai précisé, il ne s'agit pas d'illustrations à proprement parler. Mais ils allaient puiser dans cet aspect secret, mystérieux que l'on trouve beaucoup en Bohême, ou en tout cas en Europe centrale. D'où cela vient-il? Du fait que c'était autrefois une région barbare, faite de forêts touffues. À côté de cela, le sud était plus rationnel, le nord, lui, était plus mythique. Il suffit de penser aux contes germaniques notamment, où l'on retrouve cet aspect mystérieux des forêts, ou encore les régions vikings, où les trolls, par exemple, apparaissent toujours comme des personnages très vivants. Chez nous, on a l'équivalent avec les Hastermann, les génies des eaux.
Dodnes vlastně ty trolové tam jsou velmi živí a tady zase jsou to vodníci, ty Hastermani.
Hasterman, selon la terminologie germanique ou vodnik en tchèque, un personnage fort peu présent, sinon absent des contes français, mais que l'on croit sur les berges des étangs dans la plupart des contes tchèques. Petr Štěpán.
Prostě vodní duch by se dalo říct. Možná je tam byli v pohanství, to mě právě na tom zrušovalo i na té výstavě.
En gros, c'est un esprit des eaux. Il doit y avoir une influence du paganisme. Justement, cela m'a particulièrement interpellé quand j'ai préparé l'exposition ainsi que le catalogue, qu'on retrouve ces influences du paganisme qui, plus tard, a été refoulée par le christianisme. Dans le sud, par exemple, on ne retrouve pas les hommes des eaux, parce qu'ils ne les connaissaient sans doute pas, mais on ne trouve pas les diables non plus. Pour eux, le diable, c'est Satan, Lucifer. On se signe pour le conjurer, mais il ne mérite pas d'être représenté. Mais ici, les diables peuvent être bons, plutôt un peu bêtes, mais pas méchants, pour autant comme s'ils étaient des créatures autochtones faisant partie des bois. Le Hasterman vit dans les eaux, les Anglais le connaissent comme Water Spirit, mais je crois que chez nous, ce n'est pas tant un esprit qu'également une personne physique. C'est un homme vert, ses habits sont trempés, et il a toujours de l'eau qui goutte de son manteau. Et il collectionne les âmes, l'âme des noyés, dans de petites tasses qu'il conserve chez lui. Ce n'est pas un personnage positif, mais il peut apparaître comme comique ou romantique aussi. Il est aussi fantomatique et horrible, en tout cas, Karel Jaromír Erben l'a ainsi décrit.
Taky romantický, ale někdy je i strašidelný, jako hororový. Třeba Karel Jaromír Erben ho tak popsal.
L'exposition propose d'ailleurs une représentation atypique du Hasterman, une œuvre de Jaroslav Špilar, où l'homme des eaux est figé dans la glace, les eaux gelées lui tenant lieu de barbe blanche et de chevelure. Autre bonhomme que vous pourrez rencontrer à la croisée des chemins, Krakonoš, l'ogre des montagnes, dont les origines et les interprétations sont souvent floues, mais dont on dit, d'après Petr Štěpán, qu'il serait lié à Gargantua, l'étymologie commune remontant au mot kar, la pierre. L'exposition fait la part belle aux artistes contemporains aussi, qui renouvellent et se réapproprient ces thématiques du merveilleux. Parmi eux, le groupe Bratrstvo, la confrérie, un groupe d'artistes plastiques et de photographes apparu à la fin des années 1980, début des années 1990, signant leurs œuvres de manière collective et auteur d'une sorte de mythologie décalée, base du groupe et de ses créations, comprenant par exemple la vénération des hérissons ou la recherche des diables dans la nature ou parmi les gens. Autre groupe emblématique, Tvrdohlavy, les têtus, où le fantastique le dispute à l'étrange avec une fantaisie imaginative sans limite, notamment chez quelqu'un comme František Skála, dont la peau de dragon a trouvé sa place à l'exposition. Petr Štěpán nous parle de cette génération contemporaine.
Ten Skála, nebo Gebauer, který dělal ty trpaslíky, jako parodie pomníku vlastně,
František Skála ou Kurt Gebauer, qui a réalisé les nains comme une sorte de parodie de monument, ou bien encore Jaroslav Rona, ce sont en quelque sorte les fondateurs. De même Milan Knijak ou Jan Švankmajer, qui sont aussi fondateurs de ces thématiques autour du conte. Souvent, leurs élèves, car certains de ces artistes enseignent aussi, créent des variantes encore plus modernes qui se rapprochent de la bande dessinée. C'est le cas de Karel Jerije et de son projet de fin d'études notamment qui s'appelle Fantasmagorie ou La Tentation de Saint-Antoine, ou encore, c'est une scène de BD, où l'on voit un historien de l'art à l'esprit conservateur d'après notre point de vue actuel. C'est-à-dire un minimaliste conceptualiste qui déteste les personnages que l'on retrouve chez la jeune génération d'artistes. Dans ce tableau, tous ces personnages lui apparaissent, comme dans la Tentation de Saint-Antoine, et l'emportent aux cieux. Il s'agit de la scène clé où il est enlevé par les personnages ces démons modernes, tout droit sortis de BD, des Spider-Man et autres.
Nebo zjevení se těch moderních démonů, takových téměř komiksových, nějakých těch Spider-Manů, nebo co tam všechno je.
Pour découvrir toutes ces œuvres et plonger dans l'univers des contes, rendez-vous du 15 décembre 2005 au 5 février 2006 au Musée tchèque des arts plastiques.
Zvůru, bratři, jenom čerstvě vstávejte. Betlému se se mnou honem vydejte. Pospíchá teď zvěstovat velikou radost. Nelenujte jen vstávat, spatříte jasnost.
která Betlém osvěcuje celé nebe oprášluje.
Staňte s rychlostí, pojďte k Betlému, k nevinátkovi nesrozenému.
Kdo pak se narodil, pověz nám.
Mesiáš dnes přišel k nám.
Mesiáš dnes přišel k nám.
Kde pak je
v Betlémě? Kdo pak je pán země? Staňte, pojďte se mnou tam, kde se zjevil nám světa všeho mesiáš.
Vous êtes toujours sur Radio Prague en compagnie de Magdalena Segertova. Notre programme spécial se poursuit avec une histoire de Noël, Kwiatuszka et les animaux, écrite par Jarka Gregorova. Je lui passe la parole.
Au XVIIIe siècle, vivait en Moravie du Nord, dans la ville de Rožnov pod Radhoštěm, un riche bourgeois avec sa femme et sa fille unique, Kwiatuszka. C'était une très jolie et gentille jeune fille brune. La famille était très unie et vivait des jours heureux. Mais, peu après le 16e anniversaire de Kwiatuszka, sa mère mourut d'une pneumonie. Une année s'écoula et le père se remaria. Il épousa une très belle femme blonde. Elle était méchante, perfide, aimait plus l'argent que son époux et détestait profondément sa belle-fille qu'elle jalousait. Pourtant, elle ne pouvait pas trop manifester sa méchanceté, car le mari protégeait sa fille qu'il adorait. Kwiatuszka pleurait souvent sa mère, qui lui manquait beaucoup. Son seul réconfort était de faire du cheval et d'observer les animaux dans la forêt. Elle leur parlait, leur donnait à manger en hiver. Ils étaient ses amis.
Gentil écureuil, descends de ton arbre, je t'ai apporté quelques noisettes. Et vous les biches, bien sûr que pour vous aussi j'ai des bonnes choses à se mettre sous la dent. Des pommes, des carottes. Ah coquine, ne mets pas le nez dans ma poche. Oh, c'est vous les sangliers, que vous êtes gros, voilà des marrons.
Un malheur n'arrive jamais seul. 2 ans après le décès de sa première épouse, le père de Kwiatuszka succomba à une septicémie provoquée par une blessure banale qui s'infecta. La pauvre jeune fille resta orpheline. La belle-mère profita du triste événement pour commencer à vraiment maltraiter Kwiatuszka. Sa méchanceté se déchaîna avec la violence d'une furie. La belle et méchante femme lui faisait faire les pires travaux et lui affligeait de cruelles punitions si elle manquait à son devoir.
« Tiens, minable, nettoie mes chaussures. Elles sont pleines de boue. » Et après, va nettoyer tous les fourneaux, les sols et les miroirs. N'oublie pas les lustres en cristal. Noël approche et il faut absolument que la maison brille de propreté. Tu t'occuperas aussi de décorer notre demeure pour qu'elle soit splendide. Pendant les fêtes, j'attends la visite d'un gentilhomme auquel je tiens beaucoup.
La pauvre jeune fille se mit au travail. Elle travaillait dur et ne mangeait que des oignons et des choux raves cuits. C'était toute la nourriture que la méchante belle-mère l'autorisait à manger. La veille de Noël, un grand dîner fut organisé. L'arbre illuminait l'immense salon et les éclats de lumière faisaient scintiller les bijoux des invités. Après le festin, on distribua les cadeaux, mais évidemment, aucun ne fut pour Kwiatuszka. Pour le jour suivant, La belle-mère pensait déjeuner en tête à tête avec son gentilhomme adoré. Elle avait prévu de l'oie. L'oiseau rôtissait au four et Kvietushka, terriblement affamée, en avait l'eau à la bouche.
Hier, tout le monde a reçu des cadeaux, sauf moi. Tant pis, passons. D'ailleurs, je m'y attendais. Mais j'ai tellement faim. Que c'est agréable de sentir l'odeur de l'oie rôtie. J'aimerais tellement en manger, mais je sais pourtant que je n'en verrai que les os. Ah, elle est là, prête à être servie. Je vais goûter juste un petit morceau, il y en aura toujours assez pour eux deux. Une aile, que c'est bon.
À l'instant même, la belle-mère entra dans la cuisine pour voir où en étaient les préparations.
Misérable, j'ai tout vu. Tu es une voleuse ingrate. Sors de cette maison et n'y reviens jamais plus.
Et elle jeta la pauvre jeune fille dehors, seulement vêtue d'un simple châle en laine. Kvietushka dirigea ses pas vers la forêt, son grand réconfort. Le froid lui mordait le visage. Ses pieds et ses mains étaient de glace. Elle avançait sans trop savoir où elle allait. La jeune fille marchait depuis déjà des heures, perdue dans ses tristes réflexions. Kvietushka sentait une irrésistible envie de dormir.
Je suis si fatiguée, mes jambes sont si molles que je n'arrive plus à avancer. Je vais m'asseoir sur ce tronc d'arbre pour me reposer un peu.
Aussitôt, ses yeux se fermèrent, son corps s'affaissa et Kvietushka s'endormit. Elle ne s'aperçut même pas qu'un lièvre la guettait, caché derrière un sapin. Intrigué, il s'approcha, la renifla et, inquiet, courut vite réveiller l'ours brun hibernant dans sa grotte.
« Réveille-toi, vite, vite !»
Pourquoi hurles-tu comme un fou, coquin de lièvre? Si tu m'as réveillé sans raison valable, tu vas voir comment je vais te corriger.
Non, non, viens vite, viens. Notre gentille amie Kvietushka est en danger. Elle dort sur la neige, et si tu ne viens pas pour l'emporter au chaud, elle va geler. Tu es grand et fort. Moi, je ne pourrais même pas la soulever.
L'ours sortit de sa tanière et suivit le lièvre. Une fois arrivé, il vit Kvietushka déjà raidie par le froid, à moitié gelée, la mort au bout de ses lèvres blanches.
« Quelle idée de s'endormir par un tel froid et si peu vêtu! Viens, je vais te réchauffer !»
L'animal prit la jeune fille dans ses bras et la transporta dans sa tanière. Tous les animaux s'étaient déjà réunis tout autour. Le coucou a bien fait son travail. Les animaux formèrent un cercle serré autour de Kvietushka, et les lapins sauvages, lièvres et biches se blottirent contre le corps de la jeune fille. Bientôt, elle ouvrit des yeux étonnés.
« Où suis-je? J'ai faim !»
L'ours puisa dans ses provisions et tendit à la jeune fille une galette de miel et de framboises. Elle mangea avidement, et bientôt, son visage reprit des couleurs. Elle raconta ses malheurs aux animaux.
« Bien, alors tu resteras avec nous. Tu peux habiter chez l'ours. C'est grand, chaud, et il a des choses que tu peux manger en tant qu'être humain. »
Ainsi, Kvietushka resta dans la forêt, passant une vie tranquille avec ses amis les animaux. Les mois passèrent. C'était l'automne, période de chasse. Tous les animaux avaient peur et se cachaient, craignant les fusils des chasseurs et les dents de leurs chiens. Un jour, on entendit les cors sonner tout près de la tanière de l'ours. Kvietushka sortit de la grotte avec l'animal, mais il était déjà trop tard. Une balle l'atteignit en pleine poitrine et l'ours tomba. Heureusement que la blessure n'était que superficielle.
« Qu'as-tu fait, misérable ?
s'écria la jeune fille en regardant avec colère un beau jeune homme vêtu d'un habit de chasse cher et élégant qui avait fait partir le coup.
« Maintenant tu vas m'aider à le soigner. »
Le jeune homme était très confus. Il ne comprenait pas pourquoi une si belle jeune fille habitait dans la tanière d'un ours, et encore moins ce qu'elle faisait là.
« Bien, je regrette mon geste, et si tu le veux bien, je vais faire transporter l'ours dans mon château, et toi, tu vas l'accompagner. »
Aussitôt dit, aussitôt fait, l'ours guérit rapidement. Kvetushka et le jeune homme le relâchèrent dans la nature, où il était le plus heureux. Et comme les deux jeunes gens étaient amoureux l'un de l'autre, ils se marièrent, et Kvetushka resta au château. Bientôt, elle oublia tous les malheurs du passé, ainsi que sa belle-mère, qui n'était point belle du tout, car elle avait été défigurée par une brûlure de bougie dont la flamme s'était retournée contre son visage avec un courant d'air.
Fin du programme spécial du 25 décembre sur les ondes de Radio Prague. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Ce sera avec Václav Richter. Magdalena Segertová vous remercie de votre attention. Au revoir.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North